En attendant, il est 7h, je vous souhaite un très bon réveil et voici le journal de Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Plus d'un million de signatures en 24 heures. Les Britanniques rejettent massivement la décision de Boris Johnson de suspendre les travaux du Parlement jusqu'au mois d'octobre. Hier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté devant la résidence du Premier ministre britannique.
Et en Italie, le gouvernement change, mais le président du Conseil devrait rester le même. Giuseppe Conte pourrait retrouver son siège aujourd'hui à la tête d'une nouvelle alliance, cette fois entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate.
En France, la perspective d'une candidature de Cédric Villani à la mairie de Paris prend chaque jour un peu plus de corps. Le député LREM pourra donc se retrouver face à l'ancien secrétaire d'État Benjamin Griveaux, pourtant officiellement désigné candidat par le parti. Et dans 10 minutes, Guillaume, la question du jour.
Eh bien, on reste dans des questions municipales. Maxime Langouette, de quel pouvoir dispose un maire pour protéger ses concitoyens? On posera la question à Michel De Goff. Il est professeur de droit public à l'université Paris Descartes.
La suspension des travaux du Parlement britannique hier par Boris Johnson a créé un tollé dans la classe politique britannique. Un scandale constitutionnel, affirme le président de la Chambre basse, John Bercow. Une menace pour notre démocratie, abonde Jeremy Corbyn. Les parlementaires n'auront donc que 15 jours pour discuter du Brexit prévu au 31 octobre. Une pétition a déjà recueilli plus d'un million de signatures et des milliers de Britanniques ont défilé hier devant les fenêtres du Premier ministre britannique, Antoine.
Devant les grilles de Downing Street, un homme enfile un masque à l'effigie de Boris Johnson. Menteur, hurle Julie, 75 ans, qui, quand on lui demande ce qu'elle ressent, répond en français.
C'est la colère.
Et elle explique pourquoi cette suspension du Parlement est pour elle inacceptable. Nous avons élu, dit-elle, des députés parce qu'on croyait qu'ils allaient nous représenter. Ils n'ont même pas le droit de parler alors qu'on traverse une période critique et qu'on s'achemine vers un Brexit sans accord. Dans la foule, les drapeaux européens s'agitent. La plupart des manifestants ont voté contre la sortie de l'Union européenne. Il y a 3 ans, mais c'est surtout la méthode du gouvernement que dénonce Matthew, chef d'entreprise et ancien militant conservateur. C'est tout simplement abject, dit-il. En arriver là, après 300 ans de démocratie parlementaire, c'est scandaleux. À côté de lui, Igor précise qu'on soit pour ou contre le Brexit, ce n'est pas important. À ce stade, on n'en est même plus là. C'est une question de démocratie. La soirée avance, la foule grossit un peu. Alice, qui travaille depuis 5 ans à Londres, se rassure.
Il faut absolument que ça continue comme ça. La solution, c'est la mobilisation dans la rue.
Dans la rue et sur Internet, la pétition qui demande au gouvernement de renoncer à ses plans a dépassé hier soir le million de signatures.
Antoine Gignot, crise naissante en Grande-Bretagne et crise finissante en Italie. Un accord a été trouvé hier entre le mouvement populiste 5 étoiles et le Parti démocrate. Giuseppe Conte pourrait donc retrouver sa place de président du Conseil aujourd'hui après une entrevue avec le président Sergio Mattarella. 5 étoiles, Parti démocrate, à un mariage de la carpe et du lapin pour deux mouvements largement opposés par le passé, Isabelle Labéry, mais qui sont aujourd'hui réunis par la crainte d'élections anticipées où Matteo Salvini aurait pu jouer un rôle important.
C'est un mariage d'intérêts aussi improbable que le précédent. Pour se maintenir au pouvoir, le centre-gauche et les antisystèmes promettent du changement. Ils font surtout du neuf avec du vieux en remettant Giuseppe Conte aux commandes, le patron du Parti démocrate, Nicola Zingaretti.
Nous avons indiqué au président que nous acceptions la proposition des 5 étoiles sur le nom du président du Conseil. Nous voulons mettre fin à la période de la haine, des rancœurs et de la peur.
Fini donc le partenariat avec l'extrême droite. Luigi Di Maio, le leader des 5 étoiles, donne un grand coup de barre à gauche, sans complexe.
Siamo convinti che non esistano soluzioni di destra o di sinistra.
Nous sommes convaincus qu'il n'existe pas de solution de droite ou de gauche, il existe des solutions, c'est tout. On nous a parfois reproché ces dernières années d'être d'un côté ou de l'autre. Pour nous, ces schémas sont largement dépassés. Et je tiens à dire que je ne renie pas le travail réalisé pendant ces 14 mois.
Si le président de la République donne son accord ce matin, la nouvelle coalition jaune et rouge devra encore affiner son programme et se répartir les ministères. Matteo Salvini, sur le point de perdre son pari, continue, lui, de réclamer la sanction des urnes. 60 millions d'Italiens sont pris en otage, dit-il, par 100 parlementaires qui ont peur de perdre leur fauteuil.
Un reportage d'Isabelle Labéry. Au Nigeria, plus de 50 personnes, notamment des femmes enceintes et des enfants, ont été enlevées dans le nord-ouest du pays. Certains habitants ont indiqué avoir reçu une demande de rançon. Selon la police, 10 femmes ont été libérées saines et sauves après des échanges de tirs avec les ravisseurs.
7h05 sur France Culture, c'est la suite des matins avec le journal de Maxime Fayol. Les incendies en Amazonie ont de graves conséquences sur la santé des habitants.
Les épaisses fumées causent en effet des irritations et des problèmes respiratoires pour les populations. Les consultations à l'hôpital ont d'ailleurs largement augmenté depuis le début des incendies. Mathieu Mondoloni, vous l'avez constaté à Porto Velho, dans l'ouest du pays.
Des dizaines de personnes patientent dans la salle d'attente des urgences pédiatriques. Enzo, 5 mois, somnole dans les bras de Maria, sa grand-mère.
Il est bien spé.
En général, il est plutôt éveillé, mais là, il est un peu mou à cause de la fumée. Vous voyez, il y a plein d'enfants à l'hôpital, tout ça à cause de cette pollution qui recouvre notre ville.
La file des patients court jusqu'à l'extérieur. Devant la porte, assise sur un banc, Miliane sort de consultation. Dans ses bras, David, 2 ans.
Aujourd'hui, je suis là avec mon fils parce qu'il est fatigué et il tousse depuis plus d'un mois. Je fais des inhalations, mais ça ne change rien. J'ai discuté avec la docteure et elle m'a dit « Miliane, c'est à cause du temps et de toute cette fumée. Et ça va continuer 5 fois. Je suis venue 5 fois juste au mois d'août. »
La jeune femme est en colère.
Qui est coupable? L'être humain, c'est lui qui a mis le feu. Et qui subit les conséquences? C'est nous.
Habituellement, cet hôpital pour enfants traite 240 patients par jour, mais depuis les incendies, la fréquentation est en hausse de près de 20%. Une augmentation des malades que constate aussi dans son cabinet le docteur Alessandro Alves. Cela fait 16 ans que je vis à Porto Velho, dit-il. Et cette année est la pire de toutes, incontestablement. Les consultations ont explosé, c'est hors de contrôle. Le pédiatre reste parfois jusqu'à minuit dans son cabinet pour prendre en charge les enfants avec toujours les mêmes pathologies, explique-t-il. Des trachéites, c'est l'inflammation de la trachée, des pneumonies dont les cas explosent à cette période de l'année et des
sinusites.
Les enfants sont les plus vulnérables, tout comme les personnes âgées, les asthmatiques et les gens allergiques. Mais ici, à Porto Velho, c'est l'ensemble de la population qui respire quotidiennement cette épaisse fumée, dont on ignore encore la totalité des conséquences.
Le reportage de Mathieu Mondoloni avec les moyens techniques d'Éric Audra. Au sujet de ces feux en Amazonie, le président brésilien Jair Bolsonaro alimente une nouvelle fois la confusion. Après avoir refusé puis finalement accepté les 20 millions de dollars d'aide du G7, il estime désormais que la France et l'Allemagne sont en train d'acheter la souveraineté brésilienne. Jair Bolsonaro qui demande également à Emmanuel Macron de retirer ses propos sur l'Amazonie. Le président français s'est interrogé lors du G7 sur la possibilité de donner un statut international à la forêt amazonienne. Emmanuel Macron qui doit aussi préparer les futures élections municipales de mars 2020 et gérer les conflits à l'intérieur de son parti. Dans la course à la mairie de Paris, le député Cédric Villani envisage toujours de se présenter face à l'ancien secrétaire d'État Benjamin Griveaux. Il devrait annoncer sa décision la semaine prochaine, Stéphane Robert, mais son choix semble déjà fait.
Cédric Villani entretient le doute depuis un mois et demi déjà, depuis le 10 juillet, date à laquelle la commission d'investiture de La République En Marche a désigné Benjamin Griveaux comme candidat officiel au municipal à Paris en mars prochain. À ce moment-là, Villani reconnaît sa défaite, mais refuse de rallier son rival victorieux, renvoyant à plus tard sa décision. En réalité, il a déjà le sentiment de s'être fait manipuler et que le choix de Benjamin Griveaux était acté depuis longtemps déjà. Mais il ne fait pas que ruminer sa défaite. Dès la mi-juillet, son entourage commande un sondage à l'Institut IFOP. Sondage qui indique qu'il serait bien plus populaire que Griveaux au sein de l'électorat parisien, à 51% contre 38% seulement d'opinion positive en faveur de l'ex-porte-parole du gouvernement. Il se met alors à consulter tous azimuts, notamment le Premier ministre Édouard Philippe qu'il rencontre fin juillet et qui n'aurait pas découragé une éventuelle candidature dissidente. Dès lors, sa conviction est faite, il ferait un bien meilleur candidat que Benjamin Griveaux. Depuis quelques jours, il fait donc monter les enchères, distillant les informations au compte-gouttes auprès des journalistes, ce qui génère des articles dans différents médias. La semaine dernière, on apprend qu'il considère que la procédure de désignation était viciée. Ce week-end, par le journal du dimanche, qu'il sera vraisemblablement candidat. Et puis hier, c'est le journal Les Échos qui annonce à coup sûr sa candidature la semaine prochaine, avant que nos confrères de France Info n'avancent une date. Il se dévoilera le mercredi 4 septembre à 19h. D'ici là, d'autres informations devraient s'égrener au fil des jours avant que Cédric Villani ne déclare très probablement dans une semaine qu'il est bel et bien candidat.
Stéphane Robert. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur la hausse du nombre de cas de rougeole en Europe. La France, par exemple, ne parvient toujours pas à éradiquer cette maladie très contagieuse qui a touché 90 000 personnes l'an passé sur le continent européen. La rougeole a fait son retour dans plusieurs pays où elle avait pourtant disparu, comme au Royaume-Uni et en Grèce. À Paris, on s'inquiète un peu plus particulièrement des intoxications au plomb en ce moment après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Un cas d'un troisième enfant contaminé par le plomb a été diagnostiqué. Pourtant, les élèves des écoles publiques proches de la cathédrale vont revenir à l'école dès lundi. La rentrée ne sera pas décalée, Margot Delpierre, malgré les inquiétudes de certaines associations.
Les Parisiens peuvent être rassurés, a martelé le premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Nous avons, dit-il, appliqué scrupuleusement les recommandations de l'Agence régionale de santé. Les écoles publiques vont donc rouvrir. Trois en particulier ont fait l'objet d'une décontamination approfondie. Par précaution, la cour de l'établissement rue Saint-Benoît a été entièrement refaite cet été pour 200 000 euros. Non, assure la mairie, le nettoyage n'a pas été fait à la va-vite, comme l'affirme l'association Robin des Bois. Celle-ci s'inquiétait d'un, je cite, prétendu nettoyage par des agents d'entretien et non par des spécialistes. L'association reproche également aux élus leur manque de transparence depuis le début de l'affaire. Tout est mis en ligne en temps réel, ont répondu hier les adjoints en conférence de presse, qui rappellent que les résultats sont transmis à l'ARS. Hier, un troisième enfant scolarisé près de Notre-Dame a été dépisté avec un taux trop élevé de plomb dans le sang, mais d'après les autorités sanitaires, l'exposition a eu lieu à son domicile et non dans son établissement scolaire. La mairie rappelle que les parents qui le souhaitent peuvent faire tester leurs enfants gratuitement. Et parce que la pollution au plomb est une problématique ancienne et plus vaste à Paris que les alentours de Notre-Dame, une cellule d'experts sera mise en place à la rentrée.
Margot Delpierre, le temps de ce jeudi, il est assez calme sur l'ouest, instable sur l'est, de la grisaille au lever du jour, mais qui va se dissiper au fil de la journée. Les températures de 9 à 13 ce matin, Guillaume Erner.
Merci Maxime Fayolle.